Vous écoutez RFI, il est 19h30 en temps universel, 20h30 ici à Paris et à Yaoundé.
Afrique Soir sur RFI, Fabien Albert.
À la une, la reprise du procès de Martinez Zogo. Le procès Martinez Zogo au Cameroun. La 11e audience s'est tenue ce matin. Elle a duré un peu moins d'une heure. Le temps pour le tribunal militaire de rejeter toutes les requêtes de la défense. Nous serons à Port-Louis dans quelques instants. Pravin Jugnauth a reconnu sa défaite en début d'après-midi. C'est même une débâcle puisque son parti pourrait obtenir aucun siège dans le futur parlement. Victoire totale pour le camp d'en face, celui de Navin Ramgoola. Mais puis après 1968 et 74, cap sur 2025, c'est l'objectif du sélectionneur des Léopards. Sébastien De Sabre est ambitieux, il veut apporter à la RDC la troisième Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, Cannes qui se déroulera dans un peu plus d'un an au Maroc. La reprise du procès Martinez Zogo au Cameroun. Aujourd'hui a eu lieu la 11e audience dans l'affaire du nom du rédacteur en chef de la radio Amplitude FM, assassiné en janvier 2023 à Yaoundé. Ce matin, le tribunal militaire a rejeté toutes les requêtes et anomalies relevées par la défense au cours des dernières audiences, avant de repréciser les infractions qui sont retenues contre les accusés. À Yaoundé, la correspondance de Richard Onanena.
L'audience a duré moins d'une heure, juste le temps pour le juge militaire de rejeter les exceptions relevées par la défense. Des exceptions jugées précoces et infondées par la Cour. Les avocats de la défense évoquaient notamment des vices de procédure à l'instar des perquisitions sans mandat, des heures indues et l'absence de procès-verbaux pour ces perquisitions. La Cour s'est appuyée sur ce qu'elle qualifie de simples erreurs matérielles suite à des omissions observées dans l'ordonnance de renvoi d'octobre dernier pour préciser les infractions retenues contre les accusés. Pour l'accusé Justin Danwe, patron du commando suspecté d'avoir enlevé et torturé Martinez Zogo, les faits retenus, complicité de coaction, d'arrestation et séquestration, complicité de coaction de torture, complicité de coaction d'assassinat, violation de consigne. Jean-Pierre Amougou-Bellinga, patron du groupe privé L'Anecdote, propriétaire de la télévision Vision 4, et Léopold Maxime Eco-Eco, ex-directeur de la DGRE, la direction de la recherche extérieure, sont accusés d'infraction de complicité, de coaction, de torture. Les parties disposent d'un délai de 48 heures à compter du lendemain du prononcé du présent jugement pour faire appel. L'affaire a été renvoyée au 2 décembre 2024. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Pravin Jugnauth a reconnu sa défaite en début d'après-midi à Maurice. Le Premier ministre sortant battu dans les urnes lors d'élections législatives organisées hier. Le verdict n'est pas encore officiel, mais il pourrait bien se traduire par une victoire écrasante de 60-0 pour l'Alliance du changement de Navin Ramgoolam. Ce qui voudrait dire que la majorité sortante n'aurait aucun siège dans le futur Parlement. Sur place à Port-Louis, la soirée est déjà bien avancée et la victoire de l'ancien Premier ministre déjà célébrée à travers toute l'île, Abdoulaye Rally.
Oui, déjà en liesse depuis la mi-journée, les rues de Maurice résonnent encore ce soir des célébrations des partisans de Navin Ramgoolam qui s'apprêtera à retrouver pour la quatrième fois le fauteuil de Premier ministre. À midi, des résultats partiels ont poussé Pravin Jugnauth à reconnaître la défaite de son camp. À 14h, il quittait sa circonscription sur ces mots prononcés devant les micros de la presse locale. « Nous allons vers une large défaite et nous acceptons la décision du peuple ». Le dépouillement se poursuit encore ici, mais la tendance dans les 21 circonscriptions confirme une victoire écrasante en effet de l'Alliance du changement. Les autres figures du gouvernement sortant, des vice-premiers ministres, n'ont pas échappé à cette sanction massive des Mauriciens. Le gouvernement comptait sur son bilan du développement infrastructurel et la reconnaissance de la souveraineté de Maurice les Chagos, entre autres, pour convaincre les électeurs. Toutefois, les électeurs ont priorisé les soucis quotidiens, pouvoir d'achat, lutte contre la drogue et intégrité des institutions, les controverses sur la suspension des réseaux sociaux pendant la campagne électorale et les écoutes téléphoniques illégales ont également pesé lourd dans la balance.
Correspondance à Port-Louis d'Abdoula et Rally. À un peu moins d'un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire, cette fois, chaque camp avance ses pions. L'ancien président Laurent Gbagbo a échangé hier après-midi avec l'ambassadeur de France à Abidjan, une manière pour les deux partis de rétablir un canal de communication qui s'était rompu après la crise électorale de 2010-2011, Binta Diagne.
Cet échange a duré près de 2 heures. Cette rencontre s'est faite à la demande de Jean-Christophe Béliard, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. La démarche s'inscrit dans une volonté de parler à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne, explique une source diplomatique. L'ambassadeur de France a ainsi déjà rencontré Tidiane Thiam, le leader du PDCI-RDA. Sur le fond, le diplomate français et l'ancien président ivoirien ont abordé plusieurs sujets. La situation économique, la question du Sahel, la perception de la France dans la sous-région et la présidentielle de 2025. À ce titre, titre. Si la question de la transparence du scrutin a été évoquée, l'ancien président ivoirien n'a pas formulé de demande particulière en lien avec son éligibilité, indique une source diplomatique française. La rencontre a été cordiale et s'est bien passée, affirme Habiba Touré, la porte-parole du PPACI à l'AFP. Si l'entourage de Laurent Gbagbo relativise la portée de cette rencontre, ce geste permet tout de même de créer du lien. Sur la même lancée, Laurent Gbagbo devrait prochainement participer à une rencontre avec l'ensemble des ambassadeurs de l'Union européenne en poste à Abidjan. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Cette condamnation au Maroc, le tribunal de première instance de Rabat a condamné aujourd'hui le journaliste Hamid El Madaoui, directeur de publication du média Abadil.info, à une peine de 18 mois de prison ferme, peine assortie d'une amende de 1 500 000 dirhams, de dommages et intérêts, environ 140 000 euros. Cette condamnation fait suite à une plainte pour diffamation déposée par le ministre de la Justice, Abdelatif Wabi. Lui connaîtra son sort à partir du 2 décembre. Le procès d'Étienne Fakaba Sissoko au Mali a été renvoyé. L'économiste condamné en mai dernier à un an de prison ferme pour atteinte au crédit de l'État devait comparaître ce lundi pour son procès en appel. Selon son entourage, les représentants de l'État ne se sont pas présentés à l'audience, d'où le renvoi du procès. Étienne Fakaba Sissoko a été arrêté en mars dernier suite à la publication d'un livre dans lequel il dénonce la propagande des autorités de transition. Sa défense dénonce une procédure politique et déplore un acharnement. La COP29 a débuté ce lundi à Bakou, en Azerbaïdjan. Top départ de 2 semaines de négociations pour le climat. Près de 200 États, 40 000 participants sont attendus. La COP29 sera la COP des finances, au cours de laquelle un accord devra être trouvé sur un nouvel objectif de financement de la lutte contre le changement climatique. Pour Fadel Kaboub, membre de PowerShift Africa, les enjeux de ce financement sont d'autant plus importants avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis.
Du point de vue africain, le financement de la lutte contre le changement climatique est un financement du développement. Cependant, au vu des résultats des élections aux États-Unis, avec Donald Trump qui a promis de se retirer à nouveau de l'accord de Paris et de retirer les États-Unis de toutes les négociations liées au climat, le reste du monde doit maintenant redoubler d'efforts pour nous aider à réduire les émissions dans le Nord, mais aussi à abandonner les combustibles fossiles et à fournir l'aide au développement écologique dont le Sud a besoin pour construire une économie résiliente et durable. Le débat va maintenant se dérouler entre le Nord et le Sud. Est-ce que l'Europe, les États-Unis, la Chine et les grandes économies industrialisées seront prêts à passer de un peu plus de 1 milliard à 1000 milliards et à améliorer la qualité des financements et pas seulement leur quantité, afin de ne pas recréer la même hiérarchie coloniale que celle que nous avons connue par le passé.
Fadel Kaboub, membre de Power Shift Africa, joint par Weli Diallo. L'ambition affichée par le sélectionneur des Léopards en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Sébastien De Sabre, le Français, vise le titre. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo l'a déclaré ouvertement lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Avec une sélection déjà qualifiée, le technicien français compte profiter des rencontres face à la Guinée à Ebimpe en Côte d'Ivoire le 16 novembre, puis contre l'Éthiopie à Kinshasa le 19. Deux rencontres donc pour préparer l'événement, Olga Massangou.
Pour la première fois, il révèle clairement son objectif pour la prochaine CAN. Demi-finaliste en Côte d'Ivoire, les Léopards visent cette fois le titre, selon le sélectionneur Sébastien De Sabre.
Faire une demi-finale de la CAN avec le Congo, c'est pas gagné, la CAN, nous c'est ce qu'on recherche.
Déjà qualifié pour la CAN 2025 à 2 journées de la fin des éliminatoires, la RDC voudrait quand même gagner ses 2 prochains matchs pour améliorer sa position au classement FIFA. Ces 2 prochains rendez-vous seront également pour le technicien français l'occasion de donner la chance à certains joueurs.
Aujourd'hui, le championnat local est reparti et il est du rôle du sélectionneur DA de suivre cette génération-là parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, à terme, des locaux pourraient revenir rejoindre les A.
Pour ces matchs face à la Guinée et face à l'Éthiopie, Sébastien De Sabre a convoqué 26 joueurs, dont un seul évoluant au pays, Oscar Kabuit, l'attaquant du TP Mazembe, âgé de 19 ans, remplace sur la liste initiale Gaël Kakuta qui a finalement déclaré forfait suite à une blessure. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
La République démocratique du Congo, vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations en 1968 et 1974. Il est quasiment 20h40 ici à Paris.